Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
Vous êtes sur Fred Film Radio, Bénédicte Pro, aujourd'hui avec Grégory Gadebois et Clotilde M, qui jouent les deux parents du jeune héros du film Le Dernier Coup de Marteau d'Alix Delaporte, un très très beau film. Alors Clotilde, Grégory, comment avez-vous eu vent de ce projet? Comment avez-vous été séduit par ces rôles et êtes-vous entré dans le projet? Clotilde?
Avec Grégory, on connaît Alix depuis presque 10 ans maintenant. On l'a rencontré après le conservatoire et on a travaillé ensemble sur son précédent film, Angèle et Tony. Et j'avais fait aussi juste avant son court-métrage. Donc ça, c'est une... On est en famille avec Alix, en fait, on peut dire.
Grégory?
Oui, c'est exactement ça. Moi, j'avais, en plus, c'est grâce à Clotilde que j'ai rencontré Alix. Parce qu'elle était venue voir, Alix était venue voir Clotilde jouer et puis je jouais avec Clotilde. Donc, et oui, donc moi, quand elle m'a proposé le chef d'orchestre, j'étais très heureux et je ne voyais pas comment pas le faire. Quoi.
Vous venez de mentionner le film précédent d'Alix, Angèle et Tony. Il y a des similarités entre les deux films, mais les sujets sont différents. Comment pourriez-vous comparer ces deux films?
C'est encore des histoires qui vont vers la lumière, toujours qui sont et des personnages qui ont énormément de tenue. Et de dignité dans l'adversité, dans la maladie, dans la précarité, qui sont là, qui sont debout, et il y a une grande émotion. Alix, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'émotion au cinéma, mais qui n'est jamais larmoyante, pathos, et dans sa direction, c'est pareil. Il s'agit de retenir les choses pour que quand elles adviennent, ça soit très fort, mais il s'agit pas du tout de complaisance dans l'émotion, et nous, ça nous plaît beaucoup, ça.
C'est vrai que les deux, moi j'avais été posé la question, j'avais remarqué ça, c'est le même, c'est pas le même film, mais ça parle des mêmes choses, ça parle des mêmes gens, ça parle de... Moi à un moment je me suis dit qu'en fait Samuel c'était un Tony qui était un peu plus âgé, qui avait pas eu la même vie, mais c'était des gens qui ont la même, qui sont faits de la même, un peu de la même matière, qui sont faits un peu du même, qui ont les mêmes valeurs, je sais pas comment le dire, mais c'est le même, oui, c'est les mêmes traits principaux, sont un peu les mêmes, c'est valable pour le père, mais je sais pas pour les autres, mais oui.
Clotilde, dans le film, vous jouez une maman qui est malade, donc qui est pas bien physiquement et qui est soucieuse aussi pour ce qui va arriver à son petit garçon plus tard, après, si elle disparaît, mais qui est aussi pleine d'amour pour lui. Donc il y a une relation entre la maman et le fils qui est comme ça tendue entre deux pôles, une sorte de lumière, une joie, mais aussi une énorme tristesse, puis une petite agressivité du moins de la part du garçon, parce qu'il veut pas être méchant avec sa maman, mais on sent qu'il est furieux de la situation qu'il vit. Et donc c'est aussi finalement effectivement deux pôles qu'on retrouve dans le personnage du père, donc qui vous jouez Grégory, donc Simon, qui est un chef d'orchestre, qui ne savait pas qu'il a un fils, et qui au début est très dur, le reçoit avec une totale indifférence, enfin très durement comme ça, et qui, petit à petit, de manière extrêmement subtile, va en venir à l'amener devant son orchestre, à lui faire mettre ses boutons de manchette, enfin il y a des gestes comme ça très contenus, qui montrent pareil, deux pôles comme ça chez ces personnages. Comment avez-vous travaillé respectivement pour arriver à créer ces personnages complexes qui réunissent vraiment deux aspects?
Ouais, bon, je peux parler du rapport mère-fils, et en tout cas oui, il y a toutes ces choses-là qui existent entre une mère et son fils, et comment on laisse son enfant partir, comment on l'accompagne, comment on le rend fort et libre pour qu'il puisse vivre sa vie, c'est-à-dire aimer ses enfants, c'est savoir les laisser partir et puis leur donner des armes pour quand nous on va devoir les laisser, et ça parle de tout ça. Et bien sûr c'est bouleversant pour une mère de jouer ça, de le voir et de l'interpréter. Je pense que j'ai joué déjà une mère dans Angèle et Tony, mais j'étais pas encore mère moi-même. C'est vrai que ça change des choses ensuite quand on le devient et qu'on joue ces choses-là, et même sans encore se poser la question de la maladie, c'est juste être une mère et comment bien aimer son fils, parce que on aime les gens, mais comment on les aime mieux surtout.
Avec Alix, on s'était raconté que il le savait qu'il avait un enfant, mais il avait dû l'apprendre 10 ans après. Il avait eu une réaction un petit peu du genre si j'ai un enfant, c'est tout de suite ou jamais. C'est pas. Et moi, j'aimais bien l'idée que quand on les voit ensemble, je sais pas si ça fonctionne ou si c'est. Mais quand on les voit ensemble, on se dit ça va marcher forcément, mais c'est pas facile tout de suite. Il va falloir un peu de temps, et c'est le temps que le père fait pour aller vers son fils. C'est un espèce de temps, parce que c'est un peu un ours qu'il estime nécessaire pour sa... C'est un animal, en fait. On est comme les animaux. Il y a un peu de... On est d'accord, mais il y a des petits coups de griffe, il y a des petits coups de... Ça se fait pas simplement. Mais au final, on sait que ça se fera. C'est quelque chose comme ça, je crois, qui était entre le père et le fils.
Puis au final, on sait, enfin dans le film, moi je trouve ce qui est beau, c'est qu'il aura un père. On sait pas, ça reste incertain pour la mère, mais il a désormais un père sur qui il peut compter. Donc ça, c'est très lumineux.
C'est vrai que le fils et la mère se ressemblent un peu, surtout avec quand ils se coupent les cheveux. Mais c'est vrai que le fils et le père, de le début, c'est, moi j'ai ressenti effectivement cette espèce de dureté. Enfin, ils ne sourient pas, ils sont fermés sur eux-mêmes et on trouve qu'ils se ressemblent en fait à ce moment-là, comme vous le disiez. On sent que ça pourrait marcher, ouais, ouais.
Mais même moi, je sens proche de Romain comme acteur. Enfin, comme acteur, c'est prétentieux de dire ça parce qu'il est super, mais je vois comment il essayait de travailler. Ça m'est familier. Je sais pas comment dire. Il y avait quelque chose comme ça de. Oh, voilà.
Vous avez eu d'autres expériences où vous avez joué ensemble pour des réalisateurs très différents d'Alix, notamment Philippe Garin.
La première fois que j'ai vu Les Amants Réguliers, une petite salle de projection à Paris, j'ai emmené Alix. En fait, je suis sortie des Amants Réguliers, j'ai fait le court-métrage avec Alix. Et d'ailleurs, dans son court-métrage, elle me coupait les cheveux. Et depuis, je ne m'y suis jamais repoussée, d'ailleurs. La dernière fois que je les ai eu longs, c'était avec Garel. Et c'est une anecdote, mais on est venu aussi présenter Angèle et Tony à Rome, il y a 4 ans. Et Philippe Garel était à la Villa Médicis, parce qu'il accompagnait sa compagne qui a eu la Villa Médicis pendant un an. Il est venu voir Angèle et Tony, on l'a invité. Et ensuite, il a été très généreux avec Alix, à lui parler, à être très, enfin, dans un échange, mais en même temps, ils étaient à égalité. Et il m'a dit, moi, j'étais sûre qu'il allait trouver qu'il y avait trop de composition, il allait me dire que je jouais trop, que j'étais sûre qu'il allait détester. Et en fait, il m'a dit une chose, et je lui ai dit, mais t'as pas détesté et tout, genre, tu m'en veux pas. Et il m'a dit, non, c'est comme si t'avais lu Stanislavski, tu vois, et t'avais commencé par le tome 1, le jeu de l'acteur, et là, tu passais au tome 2, la construction du personnage. Voilà, donc il a validé. Mais ils ont en commun le rapport au présent, de pousser toujours les acteurs à jouer ensemble et à être au présent. Ça, c'est vraiment... Après, ils sont très différents, mais ça, c'est essentiel.
Travailler une fois avec Philippe Garel, j'ai eu l'impression d'avoir été invité à dîner, simplement. C'était une scène, les scènes qui sont normalement très compliquées à faire... C'est-à-dire que c'est une tablée de 10 et tout le monde parle, tout le monde a des... Il faut que ça fasse ambiance dîner, tout ça. Eh bien, on est arrivé, la table était mise, on a mangé, ils nous ont amené, il y avait des choses à manger. Il a dû filmer pendant ce temps-là. Et voilà, c'est mon souvenir. C'est une grande douceur, moi, je garde comme souvenir, et de grande liberté aussi. Parce que, je plaisante, il y avait des scènes aussi à jouer. Et c'était la même chose. Je me souviens, il disait, c'est là où j'ai appris. Il expliquait à quelqu'un, il disait, tu laisses l'acteur se placer, puis après tu te places en fonction. Puis après tu lui demandes de refaire la même chose, par contre.
Ce qui est incroyable, c'est, je sais pas si tu t'en souviens, mais quand on était au conservatoire, on a travaillé avec la FEMIS, qui est une école de réalisateurs de cinéma, Paris. Et lui était le parrain de cet échange entre la FEMIS et le conservatoire. Et on avait travaillé ensemble avec Grégory avec un réalisateur Eskilvogt, il s'appelait. Il était norvégien. Tu le connais ?
Mais oui, parce que c'est le scénariste de Joachim Trier et il vient de faire son premier film.
C'est pas vrai, c'est génial. J'en ai pas entendu parler de
film Blind. D'accord. Où il s'agit d'une personnage qui perd la vue et qui est enfermée chez elle.
Ah, mais j'adorerais voir ces films parce que je me souviens très bien et on a joué dans un court-métrage d'Eskil quand il était à la FEMIS avec Grégory. Et Philippe regardait les courts-métrages, jugeait les courts-métrages et a dit bon, il avait des choses à dire sur le film, mais il a dit, ça fonctionne très bien tous les deux, vous faites un très bon couple tous les deux. Vous êtes,
Oui, je me souviens, c'est lui qui expliquait aussi, qui disait, vous prenez deux personnes, vous les mettez côte à côte, ça raconte forcément quelque chose.
Alors, malgré tout, ce qui est amusant, c'est que dans le film, vous n'êtes jamais dans les mêmes scènes. Donc, sur le plateau, est-ce que vous vous êtes quand même croisés, vous qui formez ce duo?
Non, c'est à peine croisé, mais ce qui est incroyable, c'est que moi, quand je vois le film, et quand je vois la scène où le garçon me fait écouter la musique, j'ai l'impression que Grégory est présent par le biais de la musique. J'ai l'impression que ces scènes-là nous réunissent tous les trois, ou au même titre, quand vous êtes tous les deux et que tu lui dis tu ressembles à ta mère, il y a vraiment des scènes où la famille se recompose, quoi. C'est très étrange. Pourtant, on se croise pas. Mais même j'ai lu dans un papier, ils se croisent à peine. Mais c'est même pas à peine, ils se croisent pas du tout. Mais même pas du tout. Oui, tu viens en voiture. Je me souviens de ce jour-là, j'étais là.
Moi, ce que je m'étais raconté, qu'il aimait cette femme, ce chef d'orchestre. Et qu'il était... que ça s'est... Bah, ça te regardait pas, voyons. Non, mais je m'étais raconté... J'aimais bien cette idée aussi de... c'est des choses qu'on peut pas jouer, qui servent à rien, mais qu'on se raconte et qui sont pas. Enfin voilà, mais c'était. Ouais, la famille, c'était trois, inconsciemment toujours.
Eh ben merci beaucoup alors pour cette interview, Clotilde Grégory. Bonne chance avec le film. Allez le voir, je ne saurais trop vous le conseiller, Grégory. Au revoir.
Au revoir, merci.
Au revoir.
Fred Film Radio. 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.